D'après certains, donc au troisième jour après la Mila d'Abraham, vu que dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué que la Mila d'Abraham Avinu et d'Ishmaël d'ailleurs a eu lieu à Yom Kippour. Rabbi Eliezer dit que la Mila c'est à Yom Kippour. Et il dit que, du coup, c'est pas Abraham qui l'a faite. La Mila, c'est Shem qui a fait la Mila d'Abraham. Parce qu'Abraham, il était, il se considérait comme Israël, le Qumra. Il ne savait pas lui-même s'il a un statut de Ben Noir ou d'Israël. S'il est Israël, il pouvait pas faire la Mila à Kippour. C'est pas le huitième jour. Et donc, pouvait pas le faire, et alors c'est Shem qui lui était Ben Noah, qui n'a pas le droit de respecter Shabbat ou Yom Kippour, c'est Shem qui a fait la Mila d'Abraham. Ça c'est écrit dans chapitre 28, je crois, de Pirkei de Rabbi Eliezer. Mais après, il ramène que la paracha ici, elle parle, c'était à Sukkot. Donc c'est un peu contradictoire, ça peut être à Sukkot et le troisième jour après la Mila qui a eu lieu à Yom Kippour. Peut-être c'est pas vraiment le troisième jour, ou bien c'est une discussion, Marloket Tanaïm, savoir si c'était troisième jour, ben, ou bien enfin c'est entre Sukkot et la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit que c'était à Sukkot. Bon, donc Akadosh Baruch Hu a voulu éviter. Abraham, c'est quelqu'un qui était, on dirait aujourd'hui, était accro à le problème d'hospitalité. Quasiment, non seulement il recevait les gens, mais en plus, il voulait avoir des gens. C'est pas seulement qu'il était disponible pour les gens qui pouvaient avoir besoin de lui, mais c'est qu'il était à la recherche de gens dont il pouvait, auquel il pouvait offrir une forme d'hospitalité. Et Hachem a voulu le préserver, parce que c'était, si c'est le troisième jour, même si c'est Sukkot, c'est juste après la Mila, c'est quand même un vieillard, il a 99 ans. Quand il fait cette Mila, non, il a 90 ans. Il fait la Mila. En 86, il a 86 à 99, ça fait 13 ans. Ishmaël. Oui, alors quand il fait la Mila, il a 99 ans. C'est bien sûr un grand vieillard, quoi qu'il en soit. Et donc, Hachem a voulu lui éviter de devoir s'occuper des gens. Donc, il a fait en sorte. Il faisait tellement, tellement chaud qu'il n'y avait personne sur les routes. Et peut-être aussi que de ce point de vue-là, s'il fait tellement chaud, alors il n'est pas resté dans la soukha parce qu'il était patour en tant que mitztaher dans la soukha. C'est pour ça qu'il est à la porte de la tente, à la porte de la soukha. Bon, ça veut dire qu'il fait moins chaud quand même à l'extérieur que dans la soukha. Bref, bon, ça c'est le projet divin, c'est étrange parce que on est en train de dire que bon, Hachem voulait faire ça, et en fait, pour Abraham, c'est encore pire. Abraham, il se désole de n'avoir personne, et du coup, Hachem est obligé d'envoyer trois anges déguisés en hommes pour que Abraham puisse les inviter. C'est comme ça que ça a lieu. Ils vont venir. Et Abraham va les inviter comme tout le monde sait. Alors, il faut juste se souvenir que, en fait, Abraham, quand on dit qu'il était à la porte, comme Hachem s'est montré à lui, donc il est en train de prier, de parler avec Hachem, et il s'interrompt de cette conversation avec Hachem pour aller supplier les trois bonshommes, là, les trois Arabes qui sont là, de bien vouloir venir chez lui, se restaurer un peu et se rafraîchir et se mettre un peu à l'ombre. Donc, on voit que il va s'interrompre de sa conversation avec Hachem pour toute l'opération. Et alors, la Torah, elle va dire, après toute l'affaire, on va y revenir, mais tout à la fin, quand Abraham va raccompagner les anges qui vont partir en direction de Sodome pour aller détruire Sodome, le passage dit, Abraham, il a repris la conversation avec Hachem. Donc Abraham, Od, il est encore devant Hachem, quoi. Il est encore debout devant Hachem. Cette idée-là que on puisse reprendre les choses, et comme c'est comme si on mettait ce qui a eu lieu entre parenthèses, en quelque sorte. C'est quelque chose qu'on connaît dans la Si le matin, vous décidez de manger une pomme, vous faites Borei Priaetz sur la pomme, et qu'à 5 heures de l'après-midi, vous décidez de manger une deuxième pomme, vous allez devoir refaire la bracha. Or, la bracha qu'on fait, nous, sur la Torah, le Prime Brisker, etc., c'est une bracha de consommation, quasiment. Or, on fait la bracha le matin, puis ensuite on va qu'à nos occupations, et le soir on va à un shiour et on refait pas la bracha de Birkat HaTorah. Comment ça se fait qu'on la refait pas? Alors, on explique que, en réalité, c'est même comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que, il faut que la bracha, puisque c'est comme une bracha sur un fruit, par exemple, il faut que la bracha soit chal, comme on dit, il faut que la bracha saisissent un objet. C'est la raison pour laquelle, tout de suite après Birkat HaTorah, on étudie un peu. On étudie les psukim, Mishnah, éventuellement Gemara. Puis ensuite, le cas échéant, on s'interrompt et on va, je sais pas, prendre son petit déjeuner, vaquer à ses occupations, etc. Et en fin d'après-midi, on revient. Eh bien, si on revient, effectivement, alors on referme la parenthèse qu'on avait ouverte après la lecture de la Torah du matin. Et par conséquent, toute la période où on a vaqué à nos occupations, puis cette période-là est une période qui est considérée comme entre parenthèses, et ça ne diminue pas du tout le temps, enfin, c'est comme si le temps là était compressé, disparaissait, et on fait comme s'il y a eu une étude durant tout ce temps-là, et on n'a pas besoin de refaire la voix. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il fait, Chaim Meyer, vous pouvez envoyer, où est-ce qu'il est, Chaim Meyer? Il est parti? Chaim Meyer, vous êtes là? Ah oui. Vous pouvez renvoyer le code, je sais pas, monsieur le PSQ, je sais pas quoi, il demande une invitation.
D'accord, tout de suite.
Merci.
Merci. Merci. Alors, ce qui se passe, c'est que on va considérer cette espèce de parenthèse-là comme inexistante et la continuité. On a quelque chose d'analogue dans un tout autre domaine qui est dans la halakha, qui est le issour de marzir grushato si cette grusha s'est remariée entre-temps. Il y a une halakha qui dit que si quelqu'un a donné un guet à sa femme, bon, en bonne et due forme, et la femme, comme elle en a parfaitement le droit, elle va épouser quelqu'un, y compris, supposé même que c'est le gadolador qu'elle a épousé, le tzaddik de la génération. Et ensuite, ce deuxième mari, si, par exemple, il meurt, ou il divorce, et le premier mari veut réépouser la femme. Alors, la Torah dit qu'il n'en a pas le droit. Il n'a pas le droit dès lors qu'elle s'est mariée entre-temps. Alors, c'est une halakha un peu paradoxale parce que si cette femme, après le guet, cette femme, elle a eu une vie complètement dissolue. Elle a fait 10 ans de prostitution. Qui peut la reprendre? Si elle s'est mariée, même avec le gars de la dor, il ne peut pas la reprendre.
C'est
Alors, on
même appelé
explique.
Toava.
Pardon?
C'est même appelé une Toava. Ce serait
Oui, c'est
grave.
ça. Oui. Alors, pourquoi? Peut-être il faut on peut donner peut-être pas la seule explication. C'est la seule. Quand un homme donne des kiddushin à une femme, et la femme accepte les kiddushin, qu'est-ce qu'elle a accepté dans les kiddushin? Ce qu'elle a accepté, c'est de lui donner l'exclusivité des kiddushin du mariage. Elle lui garantit qu'elle n'acceptera pas d'autres kiddushin que les siens. Évidemment, cet engagement, il tombe dès le moment où il y a eu un guet. Mais ce à quoi elle s'est engagée, c'est à ne pas accepter les kiddushin de qui que ce soit d'autre. D'ailleurs, ça ne marcherait pas, mais disons, en tout cas, c'est ça. Elle lui a dit, je te donne l'exclusivité des kiddushin. Ça veut dire que du point de vue des Kiddushin, du point de vue de son engagement, elle ne s'est pas engagée à ne pas avoir de rapport avec quelqu'un d'autre. Si par exemple elle a un rapport avec quelqu'un d'autre que son mari, mais ce n'est pas un mariage. C'est un mariage, c'est un adultère. Elle n'a pas transgressé l'engagement qu'elle a pris. Mais pourquoi c'est quand même interdit? Parce qu'à partir du moment où elle a accepté des kiddushin, elle devient ce qu'on appelle eshetish. Et une eshetish, c'est une erva. C'est dans la parcha des Arayot, et donc elle est chayev mita, donc elle ne peut pas le faire. Donc elle n'a pas le droit, pas au titre des kiddushin, mais au titre c'est une conséquence des kiddushin. Alors maintenant, si on essaye de visualiser la chose, il y avait des kiddushin, ils ont été coupés par le guet. Si maintenant il refait des kiddushin avec elle, on considère que c'est comme si, excusez-moi, il faut que je vous entrez, vous l'avez. On considère c'est que comme si les kiddushin avaient duré. C'est les premiers kiddushin qui se prolongent jusqu'au deuxième kiddushin, et que entre-temps elle s'est mariée. Donc entre-temps elle n'a pas tenu sa parole qui était je m'engage à ne pas accepter le kiddushin de qui que ce soit. C'est pour ça qu'il n'y a que cela qui lui est interdit de ce point de vue-là. Bon, et c'est pour ça que c'est seulement si elle s'est remariée entre-temps qu'il y a un issour de Marzeh Grushato. Mais s'il n'y a pas eu de mariage entre-temps, même si elle a eu tous les amants de la terre, peu importe, si lui veut la reprendre, tu peux la reprendre. Il n'y a aucun interdit d'épouser une prostituée. Il y a un chapitre très célèbre. Bon, alors on ne sait pas si c'est une réalité ou bien quelque chose qui s'est passé dans sa tête, mais le premier des 12 prophètes, ce qu'on appelle improprement comment les petits prophètes, parce qu'on a peu de textes d'eux, Hoshéa, il reçoit un ordre d'Hachem d'épouser une prostituée. Et il a des enfants, cette prostituée. Puis un jour, je me dis que voilà, maintenant il faut qu'il divorce. Et en fait, il est tombé amoureux de la prostituée en question, donc il ne veut pas divorcer. Alors pourquoi c'est quoi cet épisode-là? C'est qu'en vérité, quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, laisse-moi, je vais détruire le peuple après le veau d'or, et je vais recommencer avec toi. Moshe Rabbeinu a dit, tu ne recommenceras pas avec moi parce que si tu ne veux pas pardonner au Bnei Israël, tu peux m'effacer de ton livre. Et donc, et Hachem a cédé. Mais Hoshéa, il a dit, Hachem, il y en a marre, divorce, prends un autre peuple. Et Hachem a voulu montrer faire une démonstration à Hoshéa. Il a voulu lui montrer ce que c'est qu'un amour qui est, comme on dit une ahava shena tluya bedavar, on dit dans Pirkei Avot, qu'un amour qui n'est pas, Ezra, un amour qui n'est pas lié à une raison bien précise. C'est pas un amour parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est riche, parce qu'elle est ceci ou parce qu'elle est ça. C'est un amour sans raison, en quelque sorte. Alors, on dit dans Pirkei Avot qu'un tel amour, il tient, il va durer. Un amour qui est, en fait, un amour parce qu'il y a ceci ou cela, si le ceci ou cela disparaît, ben, l'amour, il va disparaître avec. Hachem a voulu montrer à Hoshéa que l'amour d'Hachem pour le clan Israël, c'est un amour absolu, un amour qui n'a rien à voir avec des qualités du clan Israël. Mais en fait, cet amour, il vient d'où? Il vient d'Abraham Avinu. Et chez Abraham Avinu, il est présenté aussi comme un amour sans raison, et le Maharal explique. Bon, ça fait partie du shiur que j'aurais dû vous parler il y a 2 semaines. En fait, le premier des Nisyonot d'Avraham Avinu pour, en tout cas pour Rashi, c'est le fait que Nimrod a jeté Avraham dans la fournaise. Nimrod a dit à Avraham, ou bien tu te convertis à l'idolâtrie, ou alors je te jette dans la fournaise. Et Abraham, il préférait se laisser tuer plutôt que de pratiquer l'idolâtrie. Bon, il a bénéficié d'un miracle, il est sorti de cette fournaise, il est sorti indemne. C'est une chose énorme. C'est pas écrit dans la Torah. C'est marqué nulle part, cette histoire, dans la Torah. C'est écrit d'une façon un peu acrobatique, parce que l'endroit d'où venait Abraham s'appelle Ur Kasdim. Et Ur, ça peut se lire fournaise, enfin feu. Et donc, c'est construit sur ce remèze assez lointain, cette indication relativement lointaine, qui fait qu'on raconte toute cette histoire à partir de ce mot de Ur. Ça veut dire que la Torah, elle n'a pas jugé nécessaire de nous dire cette grandeur d'Abraham qui a été prêt à se mettre au nefesh. C'est pas seulement, ouais, vraiment, seulement de façon remèze. Pourquoi? Parce que la Torah, elle veut montrer que l'amour d'Hachem pour Abraham, il est sans raison. Après, on va expliquer pourquoi je l'ai choisi, etc. Mais l'amour d'Hachem pour Abraham, c'est comme ça. C'est sans raison, et c'est parce que cet amour est sans raison que maintenant, quelle que soit la conduite d'Israël dans la suite d'Abraham, l'amour d'Hachem est toujours acquis aux d'Israël, même s'ils se conduisent mal. Et donc, ça, c'est ce que le Maharal explique. Pourquoi je vous explique ça? Bon. Pour dire combien c'est important, si vous voulez, de bien comprendre la différence qu'il y a entre ce qui est écrit explicitement et ce qui est une dracha de Chazal. La grande spécialiste de l'étude de l'enseignement de la Torah, de la sœur de Yeshayahu Leibovitz, qui a enseigné la Torah, le Kumash à tout Eretz Israël, quoi. Elle a raconté qu'un jour, elle était Elle a donné un cours de Torah sur au Kasdim à des soldats. Il y avait là-bas, y compris des généraux. Et puis elle a dit que effectivement que l'histoire de la fournaise, c'est pas écrit dans la Torah. Alors, il y a un général qui lui a dit, qu'est-ce que tu nous racontes? Je me rappelle quand j'étais petit, c'était écrit dans le Chumash. Alors elle lui a donné un Tanakh et voilà, cherche. Et montre-moi où c'est écrit. C'est pas écrit, évidemment. Alors, il a feuilleté, il n'a évidemment pas trouvé. Elle lui a dit, écoute, ça doit être un kitsour, donne-moi le vrai. C'est un résumé, donne-moi le vrai texte. Alors, c'est vrai, c'est important de faire la différence entre un midrash et un verset. Tout ça, c'est de la Torah, mais c'est pas la même chose. Ça n'a pas la même puissance, ça n'a pas la même valeur. Donc, Akash Bokhu s'est dévoilé ici à Abraham après la Mila. Alors, sur le fait qu'Abraham a fait la Mila à 89 ans, il y a une question célèbre qui est de savoir pourquoi Abraham, qui a accompli toute la Torah, il a fait toutes les mitzvot avant, alors que la Torah n'a pas été donnée. Donc, il a compris intuitivement par Ruach HaKodesh que tout ce qu'il fallait faire, tout, y compris les Derabanan, etc. Comment se fait-il qu'il n'ait pas fait la Mila? Il aurait dû faire la Mila. Mais il n'a pas fait la Mila. Il y a plusieurs réponses. Enfin, il y a beaucoup de réponses. Une des réponses, c'est, je crois que c'est le Khatam Sofer, qui dit que, en réalité, quand on dit qu'Abraham a accompli toute la Torah, c'est seulement après la Mila. C'est la Mila qui l'a élevé et qui lui a permis d'accéder à ce niveau où la Torah lui est devenue naturelle, quoi, que naturellement, de lui-même, il comprenait ce qu'il fallait faire. Mais ça n'est vrai que après qu'il ait fait la Mila. Non, excuse-moi, c'est le Marchaux qui dit ça. Le Marchaux qui dit sur place, il dit ça. Donc ça enlève complètement la question. Il y a d'autres réponses, mais bon, on va pas maintenant. C'était celle, c'était la Torah de la semaine dernière. Alors, ces trois bons hommes, là, ces trois Arabes, ils sont reçus et Abraham les convainc de venir manger un morceau, quoi. Et donc, il active toute la maison, tout le monde est au galop là. Tout le monde doit courir, tout le monde doit se dépêcher. Parce que bon, comme ça, on ne fait pas attendre les gens. Et donc, il leur donne à manger, on voit que il leur a donné Réma, puis ensuite de la viande, il a respecté le Dérabanan, qui dit que on peut pas. Faut manger d'abord les produits laitiers, puis après seulement la viande. C'est un des rabananes, parce que l'interdit de bassar bechalav, c'est seulement quand ils sont cuits ensemble, ils mangent ensemble. Alors, c'est un issour des rabananes de manger la viande trop tôt après de manger des produits lactés trop tôt après la viande, mais c'est seulement des rabananes. Alors, il a respecté tout ça, il leur a donné à manger, Et puis ensuite, bon, ben, ils ont parlé. Alors, avant de voir ce dont ils ont parlé, vous prenez le verset 6. C'est marqué, Vaimaer Avraham. Ah ouais, là, Abraham s'est l'évêché d'entrer dans la maison, dans son hôtel, mais la tante de Sarah. Et il lui a dit, Marie, shlosh seim kemar solet lushiva siugot. En fait, bon, c'est un peu compliqué parce que d'un autre côté, bon, alors il a fait du pain, des matzot, du pain. Et il a dit à Sarah, prépare 3 séim, donc c'est une mesure de volume, kemar solet. Le mot kemar et le mot solet, en fait, tous les deux veulent dire farine. Mais le kemar, c'est une farine grossière, et solet, c'est une farine tamisée de nombreuses fois. Alors, donc, lui, Abraham, il lui a dit, tu vas préparer solet, kemar, farine, solet. Il y a un chazal qui dit que Sarah, elle a dit, bon, ça va suffire, kemar. Je vais pas, on va faire avec une farine plus grossière. Alors, du coup, dans la Gemara, on dit que les femmes, elles sont moins généreuses que les hommes, parce que Abraham, bon, alors, les gens font remarquer que oui, c'est facile, hein, Abraham, il dit, tu fais, elle a dit, mais c'est moi qui tamise tout le travail. Donc, c'est un sadique sur mon compte, quoi, quelque part. Mais là, il y a une très belle, très, très belle explication. Enfin, c'est pas une explication, c'est accroché à ce verset, quelque chose qui n'a rien à voir avec la situation en question, enfin pas directement. C'est du Khatam Sofer. La différence entre un pain qui est fait avec du kémar et un pain qui est fait avec du solet, c'est que le pain qui est fait avec du kémar, c'est-à-dire avec une farine beaucoup plus grossière, il faut beaucoup plus le mâcher, il faut travailler pour le manger. Beaucoup plus qu'avec le solet où, d'une certaine manière, ça glisse un peu. Alors, Sam Sofer a dit, en fait, c'est une marloquette entre Abraham et Sarah sur ce que c'est que la Torah. Abraham, il nous pense que la Torah, il faut l'enseigner solette. Il faut présenter les choses complètement lisses, complètement sans que ce soit facile et clair, absolument clair. Et Sarah, elle pense que l'important dans la Torah, c'est le travail qu'on fait. C'est le travail pour l'acquérir. C'est une dracha de « Imen kemach en Torah ». Ça veut dire que si on n'a pas mâché, si on n'a pas beaucoup, beaucoup travaillé, ce qu'on obtient, c'est pas de la Torah. C'est pas de la Torah. C'est peut-être des connaissances, ce que vous voulez, mais c'est pas de la Torah. C'est deux chitotes sur ce que c'est vraiment que la Torah. Alors, on peut dire que nous, on vit plutôt sur la version Sarah, puisque la Gemara, ça doit être travaillé. J'ai pensé qu'on peut se demander si cette marloquette entre Sarah et Abraham Avinu, c'est pas quelque chose qu'on peut rapprocher de ce qu'a dit le Rambam. Le Rambam, pour justifier le Yad, il a dit que la Torah, que la Gemara, c'était beaucoup trop touffu, il y a plein de questions, il y a plein de machloquettes, etc. Je vais écrire quelque chose qui est complètement lisse, et d'une certaine manière, il s'est permis de... Il écrit dans l'intro, il écrit que, quelque part, avec son Sefer, on n'aura plus besoin de regarder la Gemara, quoi. Puis toujours, je me suis demandé si c'était pas lui qui l'avait écrit. Je pense que c'est pas seulement son livre qu'on aurait brûlé, parce que c'est assez gonflé. Je veux dire, dans l'idée, c'est vraiment gonflé. Mais bon, ça c'est Rambam. Je sais pas. Bon. C'est probablement pas pour ça d'ailleurs qu'il a été zoré justement d'être le se faire le plus étudié dans toutes les yeshivot, c'est plutôt parce qu'il n'a pas donné ses sources. Qu'on a un énorme travail jusqu'à ce qu'on trouve les sources. Donc ça permet aussi de voir toutes les différences, etc. Alors peut-être que c'est la marloquette entre Sarah et Abraham, que le Rambam il est comme Abraham et la Gemara, enfin, tous les autres, qui ne pensent pas qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de faire quelque chose qui va remplacer les codes. Il y en a eu d'autres. Le Rif, il a fait un code avant lui. Mais bon, le Rif, il prend la Gemara, il garde les morceaux de Gemara qui sont conformes à la halakha d'après lui. Donc, tu sais très bien d'où ça vient. Ça garde l'ordre de la Gemara, tandis que le Rambam, il a bousculé l'ordre de la Gemara. Bon, je sais pas si c'est vraiment ça la marque, mais ça me paraît assez proche, quoi. Donc, on revient à ce qui a été discuté. Ils ont commencé par lui demander, Aïe, Sarah, Ishtecha, où est Sarah, parce que pour qu'il savait très bien où il était. Donc, Abraham dise, elle est à la cuisine, ou elle est dans la salle d'à côté. Et bon, pour mettre en évidence qu'elle est tsnoua, qu'elle est discrète, etc. Et donc là, on voit que c'est nécessaire de faire des compliments sur sa femme à quelqu'un parce que ça lui fait plaisir. Et donc on voit que c'est pas parce qu'il a 99 ans et elle en a 90 qu'il faut pas faire des compliments sur la tsnioute de sa femme à Avraham Avinu. C'est un macérave pas des Arabes, des Malachim. Alors, brusquement, il y en a un qui dit, Shova shuv elecha, Sarah, ishtecha. Il lui dit dans la conversation, je sais pas de quoi ils ont parlé, d'un coup il lui dit, dans un an je reviens et Sarah aura un enfant. Sarah qui est écoute aux portes évidemment, et Shomat, Petacharet, et alors la Torah dit, ben, pour qu'on insiste, Abraham et Sarah, Skenim, Bayamim, Sarah, Arkanashim, ça fait longtemps que Sarah est ménopausée. Ben, Titzrak Sarah avec Kirba. Elle a entendu ça, ben, elle a rigolé. Elle se dit, quoi, après que je suis déjà une vieillard, et mon mari, c'est aussi un vieux. Alors c'est un peu curieux, c'est Hachem qui dit à Abraham, Namazet Sarah Sarah, est mort. Pourquoi elle rit, Sarah? Et pourquoi elle dit, comment est-ce que c'est possible que je mette au monde alors que je suis une vieille femme? Donc Hachem, il a déjà changé. Elle avait dit, c'est mon mari qui est vieux. Elle sait bien qu'elle est vieille, mais elle a dit, c'est mon mari qui est vieux. Mais Hachem, il lui dit qu'elle a dit que je suis vieux. Est-ce qu'on a le droit de mentir pour Shalom Bayit? Pour qu'Abraham ne prenne pas mal que sa femme dise qu'il est vieux. Alors, Hachem a changé, il a dit qu'elle disait d'elle-même qu'elle était vieille. Puis, il parlait, mais Hachem d'avoir. Est-ce que quelque chose est impossible pour Hachem? L'année prochaine, effectivement, Hachouvelecha, Kaet Chaya, Utsarabe. Effectivement. L'année prochaine, Sarah aura un enfant. Bon, alors après, Sarah dit non, j'ai pas à rire. Il dit oui, t'as rire. On voit que Sarah rit et qu'on lui fait des reproches d'avoir ri. Mais si on se souvient, il y a quelque temps en arrière, Hachem a annoncé à Abraham qu'il allait avoir un enfant. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il s'est prosterné sur sa face et il a ri. On lui a pas fait de reproche, au contraire. Alors pourquoi il y a deux poids, deux mesures? Pourquoi, quand Abraham rit, il n'y a pas de, y a pas de reproche. Et quand Sarah rit, on lui fait des reproches. Alors, il y a plusieurs réponses qui ont été données. Je vais en apporter une. Enfin, c'est pas de moi, évidemment. Il faut faire une différence entre une promesse et une prophétie. L'a déjà dit ici déjà plusieurs fois que une prophétie, elle peut être positive ou négative. Si la prophétie est positive, elle doit toujours se réaliser. La prophétie est négative, elle n'est pas faite pour se réaliser, elle est faite pour inciter les gens à faire tchouva. Alors, des fois, ils le font comme ils, si jamais ça marche pas du tout, alors elle peut se réaliser. Mais a priori, c'est pas fait pour se réaliser, et on sait bien que le grand exemple, c'est la nevoua, la prophétie de Yona. Yona, il a reçu une prophétie comme quoi Ninevé allait être détruite si les gens font pas tchouva. Et les gens ont fait tchouva et Ninevé n'a pas été détruite. Et Yona, ça lui plaisait pas du tout parce que ça montrait que les gens de Ninevé, donc les goïms de Ninevé, quand on leur fait des reproches, etc., ils font tchouva. Les béné Israël, il y a tant et plus de prophètes et de prophétesses qui leur ont fait des reproches et ils n'ont pas fait tchouva. Et il y en a, ils voulaient pas. Ils voulaient pas mettre en évidence que les goïms répondaient beaucoup mieux que les béné Israël. Mais bon, Hachem l'a pas laissé, comme vous savez. En tout cas, c'était une prophétie qui s'est pas réalisée. Ninevé n'a pas été détruite parce qu'ils ont fait tchouva. Donc, il y avait une prophétie. Quand il y a une promesse, c'est pas du tout la même chose qu'une prophétie. La grande différence, c'est qu'une prophétie, c'est quelque chose qui a priori est fait pour être transmis. Alors qu'une promesse, ça concerne la personne auquel la promesse est faite. Donc, si on considère que le rire d'Abraham était un rire de scepticisme, il avait du mal à accepter, enfin, à bien vouloir croire que c'était possible qu'il ait un enfant encore, lui et Sarah. Mais c'est une promesse qui lui a été faite. Et bon, sur une promesse, je pose pas la question. Qu'est-ce qui va se passer? Mais quand Hachem lui fait la promesse de la terre, donc c'est tant que c'est une promesse, encore, alors il peut me poser la question, mais donne-moi un signe comme quoi je vais vraiment recevoir cette terre. Pourquoi? Parce que, et la prophétie s'est faite pour être transmise, donc ça concerne aussi les générations qui viennent par la suite. Et donc la question, elle est, Abraham, il se demande, est-ce que mes descendants seront à la hauteur? Bon, et donc là, c'est la même chose, Yaakov Avinu aussi, lui aussi, Hachem lui promet les choses, et il se demande, est-ce que, Shema Yigrom Achet, peut-être les choses vont pas se réaliser, peut-être parce que j'aurais fait une faute. Alors, la question qui est posée, et qui n'est pas très claire, c'est, Quand Hachem a dit à Abraham qu'il allait avoir un enfant avec Sarah, est-ce qu'il l'a dit à Sarah? S'il l'a dit à Sarah, alors c'est devenu pour Sarah, c'est une prophétie. Une prophétie, ça se discute pas, c'est sûr que ça doit se réaliser. Une prophétie positive, elle doit impérativement se réaliser. Et par conséquent, elle peut pas mettre en doute. Elle peut pas dire peut-être pas, etc. Et donc, on lui reproche à elle, parce que c'est prophétie, d'avoir ri. On ne reproche pas à Abraham, parce que pour lui, c'est seulement une promesse. C'est pas une prophétie. Donc là, on peut, c'est une promesse, bon, ça marchera pas. Mais une prophétie positive, ça doit toujours se réaliser. Et en fait, c'est bon, on va maintenant entrer dans cette question-là, je n'ai pas le temps sinon. Donc cette situation, elle a d'autres, on donne d'autres explications. Certains disent que, enfin, le Or HaIm, par exemple, il dit que, en réalité, personne ne dit que le rire, que les rires d'Abraham et de Sarah étaient rires, des rires de scepticisme. Le Or HaIm dit que c'était des rires de joie. Ils ont été tellement surpris par la nouvelle qu'effectivement, ils ont éclaté de rire. Mais c'est des rires de joie. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, pourquoi est-ce que on fait le reproche à Sarah? Le reproche n'est pas justifié en réalité. Et c'est peut-être pour ça qu'elle dit, j'ai pas ri. Ça veut dire, je n'ai pas ri au sens où vous me reprochez d'avoir ri. Le rire que j'ai eu, c'était un rire tout à fait logique. La faiblesse un peu de cette explication, c'est que c'est pas un des anges qui lui fait le reproche d'avoir ri, c'est Hachem lui-même. Il dit l'amazé Sarah que Sarah. Donc Sarah, il sait très bien de quelle manière elle a ri. Par conséquent, c'est un peu compliqué de dire comme le Orachaïm, mais c'est très beau, c'est très joli, mais un peu compliqué ici dans le texte. Donc, on leur annonce qu'ils vont avoir un enfant. Et effectivement, cette promesse, comme chacun sait, elle va se réaliser. Ils vont effectivement avoir un enfant. Ensuite, le texte continue et comme vous savez, les trois anges en question, chacun d'entre eux avait une fonction. Chacun a une fonction parce que les anges ne peuvent faire qu'une seule chose à la fois. Et un ange, c'est une parole d'Hachem en réalité. C'est un ordre d'Hachem. Donc, il y en a un qui est là pour guérir Abraham, Raphaël. Il y en a un qui est là pour annoncer la naissance à Sarah, et le troisième est là pour détruire Sodome. Donc les deux premières choses ont été faites, et maintenant ils vont partir, ils vont quitter Abraham. Et Anashim, et ils se dirigent vers Sodome. Et Abraham les accompagne. Bon, parce que il y a une mitzvah qui s'appelle Levaya, d'accompagnement. Ça fait partie de l'hospitalité. On donne à manger, on donne à boire et on accompagne la personne. C'est le fameux échelle. Achila, Shtia, Levaya. D'autres disent sur le lamed en question que c'est Lina. On offre à dormir aussi. Vachem Amar. Là, tout à coup, on nous rapporte que Hachem dit Amchase ani me Avram, Asher ani osé. Hachem dit, mais est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire là? Je suis en train d'envoyer un ange pour détruire Sodome. Et alors, du coup, Hachem dit, mais c'est pas vraiment défendable que de ne pas dire à Abraham ce que je vais faire. Abraham ayo yé le goy gadol ve'atzum venimokhu bo kol goy haaretz. Abraham, il va devenir un grand peuple, toutes les familles de la terre vont être bénies grâce à lui, etc. Donc, quelque part, il est responsable et c'est presque un peu. Je lui ai aussi promis la terre et les 5 villes là qui vont être détruites avec Sdom, enfin, les 4 autres que Sdom, vont lui appartiennent. C'est des villes qui sont sur son domaine, sur son territoire. Est-ce que j'ai le droit de les détruire sans le dire à Abraham? Et Hachem décide qu'il va le dire à Abraham. Et en passant, on a une information qui dit que, un peu le pourquoi je ne l'ai choisi pas, comme c'est pas la cause, parce que comme je vous ai dit, c'est un amour complètement désintéressé, c'est pas pour une raison bien précise. Il y a que par rapport à Hachem, peut-être la loi ne s'applique pas vraiment, c'est pas. Mais en tout cas, il dit, j'ai choisi Abraham, le man, Hachem Yitzavet, Banav, et Beto, Acharav, Shamrou, Der, Hachem, Lassot, Zdaka, ou Mishpat, le man, Avi, Hachem, Al Abraham, et Hachem, Diber, Alav. Abraham va faire, il va se conduire de telle sorte que, enfin, il va enseigner à toute sa maison, à toute la maisonnée, les valeurs de Tzedaka et Mishpat. C'est comme ça que Hachem va pouvoir donner à Abraham tout ce qu'il lui a promis. Donc, Abraham, il est, quelque part, il est fidèle, associé, en fait. Alors, je devrais aussi lui confier, donc, ce que je vais faire. Et il lui dit, il lui dit que quand les gens de Sodome sont complètement pourris. Et bon, et Hachem dit, je vais aller voir si effectivement c'est pas récupérable, si on peut pas simplement les punissant les sauver, ou bien s'il faut vraiment complètement les détruire. C'est là que le verset nous dit que du coup, Abraham est informé, comme les pseudos qui lui ont dit, probablement, et il retourne vers Abraham, Odenu Omed Lifne Hashem. Donc, Abraham, il est de nouveau Omed Lifne Hashem, de nouveau en prière devant Hashem, de la situation qui était la sienne quand Hashem s'est dévoilé à lui. Et du coup, Abraham va commencer, comme chacun sait, à négocier en accusant en quelque sorte Hachem, en disant c'est pas possible que le juge traite de la même manière les tzadikim et les rechaim, juge de toute la terre, c'est une injustice flagrante. Et donc il va discuter jusqu'au bout, comme vous le savez, et Hachem lui dit j'accepte tout à fait tes arguments, mais il n'y a rien, il n'y a pas. Et on voit que Abraham ne peut pas descendre en dessous de 10. S'il n'y a pas 10 tzadikim, on ne peut pas sauver la ville à cause d'eux. Maintenant, la question, évidemment, qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'Hachem ne sauverait? Il y a des tzadikim, ben sort les tzadikim, sauve les tzadikim. Comme Hachem a sauvé Lot de la destruction du déluge, sort les tzadikim. Alors, en général, on répond, c'était des tzadikim, mais ils n'avaient pas suffisamment de mérite pour qu'on les sorte de la ville dans laquelle ils étaient. Parce que d'un autre côté, c'est presque une question contre les arguments d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Voilà. S'il y a 50 tzadikim, tu vas les tuer tous, tu vas pas sauver la ville à cause de ça. Mais à quoi ça sert? Ces tzadikim, ils sont tzadikim, ils n'ont rien fait jusque-là. En tout cas, ils n'ont rien fait, ou en tout cas, ils ont rien fait d'efficace pour améliorer la ville. Donc, ça sert à quoi de les laisser vivre dans la ville et sauver la ville, ben, grâce à ces tzadikim? Il ne va rien se passer. Donc, c'est un peu une question contre l'argument d'Abraham. À quoi ça sert de les laisser? Alors peut-être il faut, je sais pas, les punir un peu pour qu'ils leur donnaient ça donnerait peut-être du crédit à ce que ces tzadikim pourraient dire. S'ils disent, voilà, vous voyez bien, ça nous arrive parce qu'on se conduit mal, et donc il faut se reprendre. Peut-être jusqu'à maintenant, ils pouvaient pas, peut-être jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé les arguments, mais peut-être que au lieu de les détruire, il faut peut-être leur donner des arguments pour qu'ils puissent convaincre les gens de Sodome. Peut-être, c'est parce que sinon on comprend pas. Je ne comprends pas vraiment l'argument d'Abraham. Qu'est-ce que ça change?
Il n'y en a pas cette notion dans beaucoup de Noirs à Kakoumabou. Il y
De
a
deux, deux,
des Noirs à Kakoumabou.
alors,
Là-bas où.
c'est-à-dire, chez Noir, on reproche à Noir de ne pas avoir prié pour sa génération, pas avoir vraiment fait ce qu'il fallait pour. C'est vrai que quand on se moquait de lui, il a répondu qu'il allait y avoir, mais bon, il n'a pas trouvé, il n'est probablement pas suffisamment investi pour trouver des arguments pour les convaincre.
Parce que là-bas, il y a aussi l'ange, qui fait pas de différence entre les élites d'origine, il y a une notion
Oui,
qui
il y a, parce que le choix de Noir, c'est un choix un peu arbitraire. Donc, pourquoi celui qui a été sorti plutôt que les autres? Il y avait d'autres comme lui qui auraient pu, puisque c'est Matsa Ren, c'est trouver grâce, c'est gracieux, c'est gratuit. Donc, si c'est gratuit, on peut prendre quelqu'un d'autre. Mais ça veut dire qu'il y a pas, Noir, il n'a pas les arguments pour être sauvé. Donc la question c'est pourquoi lui plutôt que les autres? Bon, ça veut dire qu'il avait probablement un chouïa de plus que les autres. Et d'ailleurs, il y a un chazal très étrange qui dit que au moment où Hachem allait créer le monde, il a montré aux malachim le monde. Alors ils ont dit quoi? Ils ont montré à Abraham, Adam. C'est à cause de lui que tu veux créer le monde, mais c'est un menteur. Et après, d'autres, idolâtres, etc. Noir, mais il s'est pas occupé de faire tchouva aux autres. Après, il a dit Abraham, quoi. Abraham, il a argumenté en faveur de mes ennemis, dit Hachem. Donc, quelque part, on voit très bien que c'est une grandeur d'Abraham, mais d'un autre côté, il y a un Hazal qui dit que finalement, tu argumentes en faveur de qui? En faveur des ennemis d'Hachem. Donc, il y a une faiblesse chez Abraham. On peut dire, c'est peut-être inclus dans. Il y a chez Abraham l'amida de Chesed, comme chacun sait, générosité, mais de bonté, mais il y a un excès de bonté. En général, on dit que l'excès de bonté, il est évacué avec Ishmaël. Et l'excès de Gvoura d'Israël est évacué avec Essa. Et seul Yaakov, Emitato Shlema, lui, il n'y a pas d'excès. Il a fait une synthèse parfaite. Alors peut-être que dans cet excès d'Abraham, d'après ce texte-là, il y a aussi le fait de finalement aller défendre les gens qui ne méritent pas. Bon, ils sont en situation. L'idée, quand même, Pourquoi est-ce qu'Abraham s'est embarqué dans cette affaire? Probablement parce que d'un côté, Hachem a dit, il faut que je le dise à Abraham parce que je ne peux pas ne pas lui dire. Mais d'un autre côté, Abraham, il peut se demander pourquoi est-ce qu'Hachem me le dit? Est-ce que j'ai pas besoin de le savoir, surtout de le savoir à l'avance? À la limite, j'entendrai bien aux informations que ce dôme a été détruite. Pourquoi est-ce qu'il me le dit? Si Hachem me le dit, c'est pour que, a priori, pour que j'intervienne. Et donc, du coup, il se sent presque obligé d'intervenir, puisque j'ai cette information, c'est pour en faire quelque chose, c'est pas pour ma culture générale.
La chose est que j'ai raison pour vous dire qu'on chaîne à la fille.
Ouais. Red, tu fais ta
Voilà.
mra.
Il y a ici le problème de Lot, qui est quand même son neveu et qui est l'ancêtre de Moshiach.
Alors, ça, c'est à la limite, si vous voulez, cette histoire de sort
Ishpocheh.
de Lot, c'est sûrement un argument, puisque ça va être un argument même pour sauver ses filles. Enfin, pourquoi on détruit pas Ammon et Moab directement? C'est parce que, comme dit Hachem, j'ai encore deux prédotes, j'ai encore les Ruth et Naama à sortir de là-bas. Donc, elles sont vraiment dans la chalchelette du Mashiach. Alors, vous avez raison, on peut dire la même chose sur Lot, et peut-être que, je me rappelle, je suis pas sûr, mais je pense que il y a un argument comme celui-là. La vérité, c'est que Lot va être sauvé. Lui va être sauvé, il va être sorti de Sodome. Alors, est-ce que Lot avait un mérite tel qu'il méritait d'être sorti de Sodome? Finalement, il était dans Sodome aussi. Il n'est pas. Il y a des situations où on doit se manifester. Et si on peut rien faire, il faut partir. Il y a des endroits où il faut partir. Par exemple, en l'occurrence, Yitro, lui, il est parti. Quand Bilam a, il faisait partie, il y avait le fameux conseil de Paro, de Bilam, Iov et Yitro. Bilam, c'est lui qui a suggéré de noyer les petits garçons. C'est Bilam. Iov, il a dit, on peut rien faire, donc il n'est pas, je vais rien dire. Et Yitro, il a manifesté avec ses pieds, quoi. Il est parti. Il est devenu persona non grata, un ennemi d'Égypte, de l'Égypte, quoi. Donc, quand c'est insupportable, il faut partir. Tu peux pas modifier les choses, il faut partir. Il y a une halakha dans la Lashon Hara, t'as pas le droit de rester à un endroit où tu vas entendre du Lashon Hara, même si tu participes pas. Si tu peux pas arrêter le Lashon Hara, tu dois partir. Alors, est-ce que Lot avait un mérite? On dit que Lot n'a été sauvé que par le mérite d'Abraham. Bon, enfin, dans le mérite d'Abraham, on inclut le fait qu'il n'ait pas dénoncé Abraham en Égypte. Parce que finalement, lui, il était vraiment le frère de Sarah. Et donc, il aurait été seul couvert de trésors s'il avait dénoncé Abraham. Tandis que là, il a été aussi honoré, puisqu'il sort lui aussi très très riche. Mais d'une certaine manière, on peut imaginer qu'il a dû partager avec Abraham. Tandis que là-bas, il aurait été le héros le frère, le vrai frère, s'il avait dénoncé Abraham. Il ne l'a pas fait, et donc il s'est acquis des mérites par rapport à Abraham. Et enfin, il a été sauvé grâce à Abraham. Mais pas de cette destruction. Il était sauvé dans la guerre. Il avait déjà été sauvé par Abraham dans la guerre contre les quatre rois. Là, il va être sauvé. Et d'ailleurs, cette idée que, effectivement, n'importe qui peut pas être sauvé comme ça, on voit très bien que tu peux être sauvé, mais éventuellement, tu n'as pas le droit de voir ce qui arrive aux autres. C'est ce qui se passe avec la femme de Lot. Elle est sauvée parce qu'elle est la femme de Lot, mais elle n'a pas elle n'a pas un mérite tel qu'elle ait le droit de voir la destruction de Sodome. Et parce qu'elle la regarde, alors elle devient la fameuse statue de sel. Elle meurt. Parce qu'elle n'avait pas le droit de voir. Elle ne méritait pas ça.
C'est un sauvetage sous condition.
Oui. C'est un sauvetage, mais pas plus. Ce n'est pas sous condition, c'est pas une condition. Tu as le droit d'être sauvé, mais tu n'as pas le droit de voir. Voir les autres, ce qui arrive aux autres, non. Bon, alors Abraham a fini de discuter avec Hachem, et finalement, bon, les choses retournent dans l'ordre. Et donc, on nous raconte l'histoire de Lot, les anges qui arrivent chez Lot, qui leur donnent l'hospitalité, mais bon, qui finalement est sauvé par les anges eux-mêmes. Et puis il sort et il y a l'épisode des deux filles de Lot. Ils pensent qu'elles sont les seules survivantes de l'humanité et qu'elles se sentent en position de devoir assurer la pérennité de l'espèce. OK. Ensuite, Abraham s'en va en direction du sud. Et là, il est tout près des Plishtim, là, des Palestiniens de Gaza, là-bas. Et Abraham fait le même coup qu'en Égypte. Il dit aussi à Sarah de se faire passer pour sa sœur. Et puis Abimelech prend Sarah, Hachem lui parle. Donc Abimelech qui repasse un savon à Abraham, ce que tu m'as raconté, etc. Bon, finalement il renvoie finalement, donc ils se séparent. Et puis vient la naissance d'Israël. Alors effectivement, Sarah accouche, comme ça avait été annoncé. Et Abraham appelle son fils Yitzhak. Il fait la mila d'Yitzhak le huitième jour. Donc Yitzhak, c'est le premier qui est circoncis le huitième jour. Puis on a retardé un peu le festin pour être sûr que Israël va vivre, etc. Et au moment où on l'a sevré, Abraham a fait un grand festin. Et voilà. Avec bon, tout ce que vous savez pour ce festin. Et puis à ce moment-là, il va y avoir un conflit. Sarah, elle voit que le fils d'Agar, l'Égyptienne, ce fils qu'Agar a donné à Abraham, il est Metsachek. Metsachek, c'est rire aussi. Il joue avec Yitzhak et il est Metsachek. Alors, ce metsachek là, Rachon dit, c'est la Shona Belazara. Et il ramène un autre Lachon, comme quoi c'est Gilui Arayot. Et un troisième lachon qui dit que c'était aussi, ça peut être aussi Retsicha. Donc Sarah, elle voit chez Ishmaël les comportements. Il a 13 ans de plus que Yitzhak, en tout cas. Et elle voit chez lui les trois avérot maximales. Elle dit à Abraham, Garesh, Ama Azot Ved Bena, je veux que tu chasses cette servante et son fils. Je ne veux pas qu'il hérite, le fils de la servante, avec mon fils, avec Yitzhak. Parce que tout à coup, elle met à la limite, on pourrait dire, je ne veux pas qu'il risque sa peau parce que bien qu'il apprenne des mauvaises choses, des mauvais comportements. Je ne veux pas qu'il hérite. Rachid dit, du fait que Sarah dise qu'il lo yirash ben ha'ama azot im beni, atalomed Shaya Meri Vimitzrak à la Yerusha. En fait, il y avait une dispute entre Ishmaël et Yitzhak, les deux fils d'Abraham, sur l'héritage. Ishmaël disait, ce qui est la vérité, Ani Bechor, moi je suis l'aîné, et l'aîné il prend une double part dans l'héritage. Otel Pishnaim. Et puis, en fait, ils vont dans les champs et je ne vois pas très bien le lien en fait, entre les deux, mais bon. Et Ishmaël, il prend son arc et il tire des flèches en direction de Ishmaël tire des flèches en direction d'Yitzhak. Et quand on lui en fait le reproche, il dit c'est dangereux. Il dit, mais je joue, il s'amuse. Donc Sarah, elle exige que, elle demande que soit chassé. Elle lui enlève l'héritage. C'est un peu intéressant par rapport à ce qu'on sait par la suite. Il y a toute une paracha dans l'histoire des deux femmes, la femme aimée et la femme haïe ou qui se sent haïe et qui a le problème de l'héritage. Et là, elle dit, moi, je veux pas qu'il hérite. Mais, franchement dit, c'est un peu compliqué de comprendre comment elle peut dire une chose pareille. On peut pas pécher. D'ailleurs, c'est pas parce qu'il sera pas là qu'il va pas hériter. L'héritage n'exige pas d'être sur place. Et c'est pas parce qu'il aura chassé la mère que l'enfant ne va pas hériter. Et peut-être que le Garesh a Ama Azot Ved Bena, comme si le Garesh était en facteur. Garesh et Bena, chasse le fils, ça veut dire, quelque part, déshérite-le. Mais il faut savoir si on peut vraiment déshériter quelqu'un. Parce que chez les Bnei Noach, on peut déshériter quelqu'un. Non, c'est un peu compliqué. Le Ramban sur place dit, ah voilà, peut-être que je lis encore un verset. Elle demande qu'il le chasse. Vayera davar meod beine Avraham al adot beno. La chose a fait très mal à Abraham, ou la chose lui paraissait à Abraham très mauvaise, meod, al odot beno à cause de son fils. Alors, qu'est-ce qui lui a fait mal qu'elle veuille le chasser? Rashi dit autrement. Rashi dit à l'onot beno, il ramène le Midrash Rabba, al sheshama sheyatsa le tarbut ra'a. Rashi dit un pshat, donc il va dire tout de suite que c'est pas ça le pshat. Il explique comme ça et il dit upshuto al sheomeret lo shalcho. Le pshat ici, c'est que qu'est-ce qui lui fait mal qu'elle lui demande de le chasser. Mais c'est comme si on voulait lire le verset d'une façon qui est moins ras-de-terre, d'une façon un peu plus élevée, que la souffrance d'Abraham, elle vient de l'information qu'il reçoit. Il reçoit l'information que son fils a mal tourné. Il a un fils qui est devenu visiblement un peu idolâtre, un peu assassin et un peu de mauvaises mœurs. C'est une drôle de façon de présenter les choses, c'est-à-dire Rashi dit quelque chose, et après il dit mais c'est pas le pshat. Le pshat il est plus simple, quoi. Simplement il a un problème. Mais ici dans la Torah c'est marqué à l'odot beno. Il y a un midrash qui dit que Hachem a dit à Abraham, tu dis que c'est à cause de ton fils, mais c'est aussi à cause d'elle. C'était quand même aussi un peu, c'était devenu sa femme, Agar. Donc, elle aussi, elle avait du mal à la chasser. D'après le Midrash. Je vous ai dit, il faut faire la différence entre les psukim et le Midrash. Le Ramban dit la chose suivante. Al-Odot Beno, Sheyatzal tarbut ra'a upshuto al sheomeret lo le shalcho. C'est la chose de Rashi. Ça, c'est ce que dit Rashi, dit Ramban. Va'anachon be'enai. Le Ramban n'est pas vraiment d'accord. Il dit, moi, je pense que ce qui est vrai, c'est akatuv siper bichvod Avraham ve'amar sheloya davar ra me'od be'enav. Et le verset vient dire, en l'honneur d'Abraham, donc le Ramban ici va dire le contraire de ce que je vous ai rapporté au long du Midrash, que c'est pas parce que il est attaché à cette concubine qu'il a qu'il l'aime, quoi, qu'il le désire. Veilu amra lo shetgaresh ha'ama bilvad, ayose beratzon Sarah. Si elle lui avait seulement, le verset veut dire, si elle lui avait seulement dit de chasser la servante, il l'aurait fait sans problème. Aval mipne beno charalo meot. Mais de chasser son fils, ça lui faisait très mal. Ve lo ratza lishmo elea. Et il ne voulait pas l'écouter. La Kadosh Baruch Hu Amarlo, שלא יראה בעיניו על הנהר, ולא על העם הכלל. Il ne faut pas t'en faire ni pour l'enfant, ni pour la servante. Vaishma le kol Sara, donc du coup, elle a, puisque Hachem lui a dit, il a écouté la voix de Sara, Ibe Yitzhak levado, ikare lo shemo. Vishmael lo ikare lo zera, et Ishmael ne sera pas considéré comme le descendant d'Abraham. Et Abraham, qui avait peur qu'il lui arrive un accident s'il le chasse de chez lui, Amar, qui est simenolo, le goy, bimarcheno, ipne shuzaro behemet. Hachem l'a rassuré, il lui a dit, je vais le garder, je vais en faire un grand peuple, parce qu'il est vraiment ton descendant. C'est-à-dire, il est physiquement ton descendant, on ne peut pas le nier, mais il ne sera pas ton descendant spirituel. Mais néanmoins, j'entends que tu as peur qu'il lui arrive du malheur, je vais le protéger.
Et la chance ne veut pas.
Alors, justement, il lui enlève. Visiblement, il le chasse. Il n'y a pas de double part. Sa double part, elle est dans la mesure où il est son descendant spirituel. En fait. Et on va voir à l'enterrement d'Abraham, Ishmaël va laisser passer Yitzhak devant. Ishmaël va dire que c'est Yitzhak le vrai descendant. Il va le reconnaître.
La notion de
Zaran oui, c'est vrai, c'est vraiment son descendant, mais c'est pas, il ne sera pas son descendant spirituel, mais physiquement, il est bien ton descendant. Le Sforno, il dit, Garesh et Ama Azot, Ved Bena. Alors, lui, il dit, Ki bat sata, asa ben. Chez Otsi, pourquoi est-ce que elle veut qu'il soit chassé? Neman yirash bena et akol. Elle veut que son fils, il hérite la totalité de l'héritage d'Abraham. Le firar garesh, ipne she en din, she irash afilu biktsat. Et il lui a dit, elle lui a dit, je ne veux pas qu'il hérite, parce qu'en vérité, enom miuchas acharecha. Sforno lit qu'elle voulait dire à Abraham, il n'est pas du, c'est pas ton fils en réalité. Pourquoi? Chez Avlad olef achara pagum. Parce que elle est une servante. Et la halakha, elle est qu'Israël abat avec une servante. L'enfant, il est comme elle. L'enfant n'est pas son fils à lui. Alors ici, il y a toujours, je crois que je vous en avais déjà parlé en son temps, cette histoire du statut de Hagar n'est pas du tout très claire, parce que quand Sarah a donné Hagar à Abraham, c'est marqué, elle lui a donné l'eau, le Isha. Elle lui a donné cette femme comme épouse. Et Rashi, là-bas, il explique que pourquoi est-ce qu'elle lui a donné comme épouse? Elle voulait pas que Abraham doive s'unir avec une servante. Donc, elle l'a, ça veut dire, en vérité, si elle a pu lui donner comme épouse, c'est qu'elle l'a libérée. Mais le problème, c'est que elle, si elle l'a libérée, elle est une femme libre. Or, quand elle se plaint à Abraham que Agar lui fait des misères, elle se moque d'elle parce que Agar est enceinte et qu'elle ne l'est, ça n'a pas été. Alors Abraham lui dit, mais c'est ta servante, fais ce que tu veux avec elle. Donc lui, il l'appelle servante. Et elle chasse Agar. Et le malach, il rencontre Agar, il l'interpelle et lui dit, Agar, Shifrat Sarah, où vas-tu? Donc lui aussi, il l'appelle Shifrat Sarah. Et après, elle reprend son nom, elle est toujours Shifra. Et c'est difficile à comprendre. Et si elle l'a libérée, on peut pas, une femme libre ne peut pas devenir une servante. Une juive servante, ça existe que chez une fille de moins de 12 ans. Son père l'avant comme une servante. Elle peut avoir un statut de Hama Ivria, d'ailleurs, et pas de Shifra Mitzrayim, sûrement pas. Donc c'est quoi? On a l'impression que c'était de la blague, quoi. Personne n'y a cru. Ni Abraham, ni le Malach, ni Sarah. Elle dit, je te donne en épouse, bon, c'est pour la galerie ou quoi, c'est pas. Et là, on voit très clairement que elle, Sarah, elle lui dit, ça n'a pas goût, ça veut dire elle n'était pas libre. Donc c'est, et donc c'est vrai que si c'est vrai qu'elle était une servante, alors l'enfant, il n'est pas du tout l'enfant d'Abraham. Mais le Ramban, il a dit que Bémet, c'est son enfant. C'est-à-dire que le Ramban, il va bien avec ce qui a été dit qu'elle lui a donné comme épouse. Mais il a l'air d'être un peu seul, là, le Ramban. Il dit pas pourquoi, c'est, il dit c'est Aro Bémet. Bémet, il est son. C'est vrai, Bémet. Mais du coup, c'est plein d'issourim parce qu'on n'a pas le droit de traiter de servant, d'esclave, un homme libre, une femme libre. Comment le fait qu'il la traite d'esclave? Thank you.